Voilà, je retrouve des amis, des frères et sœurs ici. Voilà, c'est un privilège. Voilà, nous voulons ouvrir la parole de Dieu et je vous invite à écouter cette lecture du prophète Ézéchiel au chapitre 3 et je lis à partir du verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te redemanderai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de sa justice qu'il avait pratiquée, mais je te redemanderai son sang. Si au contraire tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu auras délivré ton âme. Voilà un texte tiré de ce prophète Ézéchiel, prophète qui annonce beaucoup de choses et en particulier le rétablissement du royaume d'Israël. Et lorsqu'il annonce cette parole et sa prophétie en particulier, nous sommes en 598 à Babylone. On peut préciser que quelques années auparavant, en 605, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va battre les Égyptiens et s'assurer ainsi la domination sur tout le pays d'Israël et va déporter ses habitants. Ézéchiel va se trouver parmi les milliers d'exilés à Babylone. C'est un jeune prêtre qui devient le porte-parole de l'Éternel en territoire païen. Il va prophétiser les oracles de Dieu à son peuple, alors exilé, en usant de tous les moyens à sa disposition, y compris le mime, appelé geste prophétique, lesquels vont interpeller de manière particulière. Nous en donnerons un exemple dans un moment. Pour l'heure, arrêtons-nous à ce que l'on pourrait qualifier de formation du prophète, qui sera très vite confronté à la dure réalité de son ministère par le terme de sentinelle dans l'expression que nous avons lue, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ce texte que nous avons lu débute par une expression, au bout de 7 jours. C'est après ce temps que Dieu établit Ézéchiel comme sentinelle sur la maison d'Israël. Le mot sentinelle évoque bien évidemment l'armée. Un soldat qui, en armes, est placé en faction. Cette personne qui fait le guet, qui regarde et avertit en même temps. C'est bien ce que le texte nous a montré. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu avertiras en même temps le juste comme le méchant. Nous sommes, je le crois, dans un contexte aussi de guerre. Une guerre certes spirituelle en tant qu'enfant de Dieu, et même si nous voyons autour de nous des guerres, des bruits de guerre entre les êtres humains. Et le terrorisme, bien évidemment, est une guerre terrible dont nous sommes l'objet dans tous les pays. Les 7 jours dont il est question sont le temps en fait où le prophète, alors enlevé par l'esprit, est conduit vers les exilés, un peu comme il sera fait d'ailleurs pour Philippe dans les Actes des Apôtres. Et Ézéchiel est resté pendant 7 jours stupéfait en voyant la désolation et la souffrance de ses frères à Babylone. Mais avant d'être enlevé par l'esprit, Ézéchiel a vécu des moments exceptionnels que l'on pourrait attribuer à un temps de préparation et de formation pour cette future sentinelle de l'Éternel. Et c'est donc à travers ces trois actions que Dieu va d'une part se révéler à lui et d'autre part le former. Trois actions que nous voyons dans les chapitres qui précèdent le texte que nous avons lu, les chapitres 1, 2 et début du chapitre 3. Quelle est la première action? Nous l'intitulerons la vision. Nous lisons. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés près du fleuve Kébar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Un peu plus loin, au verset 26, au début de la voûte, au-dessus, pardon, de la voûte céleste qui était sur leur tête, et là il fait allusion à ces chérubins qu'il a vus, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière donc qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. En dévoilant une partie de sa gloire, Dieu veut montrer à Ézéchiel qu'il ne devra jamais oublier dans sa mission que Dieu est Dieu, qu'il est au ciel et que lui, Ézéchiel, est sur la terre. La réaction du prophète qui tombe sur sa face comme pour adorer démontre que le but est atteint. Je pense aussi au prophète Ésaïe qui ressent aussi en voyant le trône et la gloire de Dieu, de purifier ses lèvres après avoir vu cette majesté de Dieu. L'apôtre Jean sur l'île de Patmos dans la Nouvelle Alliance va s'agenouiller, va se prosterner devant l'apparition de Jésus ressuscité, revêtu alors de toute sa gloire. Quand Dieu se révèle, il y a une réaction. Réaction d'adoration, certes, mais aussi réaction d'humilité, qui sous-entend quelque part la consécration. Et d'entrée, nous voilà comme Ézéchiel confrontés à la gloire et à la sainteté de Dieu, dont nous devons nous rappeler en permanence. Dieu s'est dévoilé, Dieu s'est fait connaître en vision, en songe, ou d'une manière réelle à certains hommes, afin qu'il nous communique qui il est. Pensons à Jacob qui a vu cette échelle d'où montaient et descendaient des anges du trône même de Dieu. Pensons à Ésaïe que j'ai déjà nommé, qui a vu l'Éternel sur son trône. Pensons à l'apôtre Paul qui fut ravi au troisième ciel et qui a reçu des révélations qu'il a transmises ensuite durant tout son ministère. Nous devons prendre garde à ne jamais perdre de vue cette gloire et cette sainteté de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le souverain sacrificateur, Aaron, entre autres le premier, avait sur son front une lame d'or accrochée à la tiare sur sa tête, sur laquelle était inscrit « Sainteté à l'Éternel ». Et chaque fois que les personnes regardaient Aaron lorsqu'il avait revêtu cette tunique particulière, eh bien, ils pouvaient lire au-dessus de ses yeux cette parole « sainteté à l'Éternel », comme pour rappeler l'importance, n'est-ce pas, de la situation et à qui il faut adresser sa reconnaissance et à Dieu, non pas à l'homme, bien sûr, mais à Dieu. Saisir sa sainteté nous permet de le servir de la bonne manière, avec une bonne crainte qui implique l'obéissance et l'acceptation de sa volonté. Celle-ci n'est pas toujours évidente, d'une part à voir et d'autre part à accepter. Dieu n'est pas notre copain, même s'il nous laisse, à travers la prière, nous adresser à lui en toute liberté. Mais liberté ne signifie pas pour autant irrespect. Je suis convaincu que mon engagement spirituel est proportionnel à la vision ou à la révélation que j'ai de Dieu et dont je dois être toujours gourmand. Suis-je gourmand de cette révélation ? Suis-je gourmand de la recherche de cette gloire ? Et j'étais reconnaissant d'entendre les prières et de voir aussi les chants que nous avons entonnés ensemble qui rappelaient cette recherche et cette gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il me paraît capital pour l'Église d'aujourd'hui de rappeler et d'enseigner cela, car il me semble que ça se perd petit à petit, cette sainteté de Dieu. Et les effets peuvent être désastreux, comme celui de l'autorité de l'Écriture qui peut être bafouée au détriment justement de la tradition, de l'expérience ou des sentiments. C'est pourquoi Dieu demande à son enfant, il nous demande d'être attentifs pour que sa gloire qui nous a été révélée à travers son Fils Jésus-Christ ne soit pas entachée par cet amour du monde qui est si tentant. N'aimez pas le monde, dit l'apôtre Jean, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Et nous sommes avertis. Alors, lorsque nous nous approchons de Dieu ou que nous le laissons s'approcher de nous, quelque chose doit changer dans la manière de le servir au quotidien, mais aussi dans la manière de voir les choses et en particulier les événements de la fin, si d'aventure notre génération était celle choisie par le Seigneur pour son retour. Ces événements que nous vivons et qui ont la particularité d'être planétaires doivent nous interpeller et nous rendre encore plus attentifs à ce que Dieu veut dire à son peuple aujourd'hui. Car Dieu parle, dit Job, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Il est important, mes amis, d'écouter, de savoir écouter, d'entrer dans cette dimension de la présence de Dieu à travers justement cette relation d'intimité qu'il nous a lui-même ouvert par la prière en particulier. Mais Dieu parle aussi par sa parole qu'il a inspirée, qu'il a laissée aux hommes. Et nous allons le voir à travers la seconde action dont Ézéchiel va être l'objet, c'est ce que j'appellerai la nourriture. Et nous lisons dans le chapitre 2, « J'ai regardé et j'ai vu qu'une main était tendue vers moi. Elle tenait un livre. Il l'a déroulé devant moi, écrit des deux côtés. Il contenait des complaintes, des lamentations et des gémissements. Il m'a dit, « Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. » J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. » Alors je l'ai avalé. Et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Il m'a dit, « Fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. » Voilà quelque chose d'assez extraordinaire que va vivre le prophète Ézéchiel. Il voit un rouleau écrit, et écrit des deux côtés. Vous savez que les rouleaux, à l'époque, se dépliaient, n'est-ce pas ? On les dépliait, oui, effectivement, pour voir ce qui était écrit. Et en fait, Ézéchiel voit ce rouleau qui est écrit, pas seulement du côté où on a l'habitude de lire, mais des deux côtés. Ce qui montre, quelque part, la densité des messages qui lui sont demandés d'adresser au peuple. Le prophète, on peut dire, littéralement, a du pain sur la planche. Il lui est demandé de manger littéralement ce rouleau de manière à en nourrir ses entrailles. Et c'est de cette manière que Dieu veut faire entrer son message pour que le prophète le délivre ensuite au peuple exilé. Et il le fera effectivement de deux manières. Par la parole, certes, et c'est évident, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, par des mimes, lesquels sont aussi appelés, je l'ai dit, gestes prophétiques. En voici un en particulier que Ézéchiel va vivre. Il nous est dit au chapitre 4, « Couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur le côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et tomberas nu vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. » Je pense que ça n'a pas dû être évident pour le prophète de vivre ce qu'il a vécu et d'avoir ces gestes-là qui étaient publics. Et certainement que les personnes qui voyaient Ézéchiel là, sur place, en train d'agir, eh bien, devaient être frappées en particulier de ces gestes prophétiques et de ces annonces que peut-être beaucoup d'ailleurs ne saisissaient peut-être pas non plus. Mais Dieu lui avait demandé de le faire ainsi. Alors cette nourriture, certes particulière, nous le lisons dans le texte, est bonne et douce comme du miel, précise le texte. Ce qui laisse entrevoir en même temps la réalité de l'expérience qu'il a vécue, puisqu'il ressent dans sa bouche cette douceur lorsque Dieu, après que Dieu lui dit « avale ce message ». Qu'il l'ait vécu réellement ou en vision, et je crois qu'il l'a vécu réellement puisqu'il sent cette douceur, cela n'enlève en rien de toute façon la leçon qui s'en dégage pour nous aujourd'hui, à savoir que nous devons prendre garde à ne pas rester superficiels en face de l'Écriture. Ce n'est pas en restant devant un bon plat que l'on se nourrit. Dieu, en bon chef cuisinier, nous fournit un superbe plat, la parole, sa parole, à nous de prendre la fourchette pour nous servir. Le Seigneur ne fera pas à notre place ce que nous devons et pouvons faire. Sa parole nous a été donnée comme nourriture spirituelle et comme Ézéchiel, lorsqu'on y goûte, elle est bonne, elle est douce. Je pense à ce texte de l'apôtre Jean qui nous dit « Tes commandements ne sont pas pénibles ». La lecture de la Bible, est-il besoin de le rappeler ici, fait partie de notre formation au quotidien, car nous sommes d'une certaine manière, et nous l'avons compris, une sentinelle pour le Seigneur, nous, chaque enfant de Dieu. Oui, la parole nous donne des éléments et des données essentielles qui seront utilisées à bon escient, à l'exemple de Jésus, qui, tenté par le diable, va répondre par trois fois de la même manière, « Il est écrit ». C'est le propre de la sentinelle, de discerner ce qu'elle voit et entend, afin de contrer l'ennemi avec la bonne arme. Il nous sera difficile de dire « il est écrit » si nous ne savons pas ce qui est écrit. Je pense à cette image d'un aéroport que nous connaissons, nous avons tous pris l'avion. Dans un aéroport, il y a ce qu'on appelle la tour de contrôle. Et dans cette tour de contrôle, il y a des hommes, des femmes qui sont formés, qu'on appelle les aiguilleurs du ciel. Eh bien, ces aiguilleurs du ciel ont une lourde tâche, celle d'autoriser ou de ne pas autoriser un avion à atterrir et de le faire atterrir sur la bonne piste pour qu'il n'y ait pas de soucis et d'accrochage. Mais les données que nous entrons à travers la Bible sont pour moi comme les aiguilleurs du ciel. C'est-à-dire qu'il arrive dans notre espace aérien spirituel des données de tous ordres, des tentations même, parce que c'est ainsi. Qu'est-ce qui va faire que je vais autoriser des choses à entrer ou à ne pas entrer dans mon cœur, parce que je les vois, parce que je les entends? Eh bien, les données que j'ai entrées, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce qui est entré en moi par la lecture de l'Écriture, va jouer le rôle d'aiguilleur du ciel. Oui, ça, je peux autoriser parce que Dieu est d'accord. Je le sais, c'est écrit dans sa parole. Telle chose, je ne peux pas autoriser parce que ce n'est Dieu le condamne. Je le sais et je le connais dans sa parole. Filtrer. Filtrer les choses. Voilà ce à quoi sert aussi l'Écriture. Elle nous nourrit. Elle nous prépare aussi à pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Prenons donc, et j'ai peut-être l'impression en disant ça d'enfoncer une porte ouverte, mais prenons donc le temps de la lire, d'autant plus que les temps difficiles approchent, où nous aurons besoin d'avoir bien été nourris pour tenir ferme. Ainsi, nous pourrons faire nôtres ces paroles de l'apôtre Paul qui dit « Vous savez en quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée. Le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Vous remarquerez que l'apôtre Paul dit « Vous savez en quel temps nous vivons. » Il sous-entend que les enfants de Dieu auront la capacité à voir et à discerner les choses, et en particulier les signes des temps, sans forcément peut-être tout comprendre, bien évidemment, mais ressentir, sentir les choses. Je visite beaucoup de communautés, alors avec le confinement, j'en fais un peu moins, mais quand même, et je remarque que dans toutes les communautés, quelles que soient les dénominations, il y a un dénominateur commun dans les discussions que j'ai avec les uns et les autres, c'est le sentiment que nous vivons vraiment quelque chose d'exceptionnel, depuis, pas forcément depuis le Covid, mais même avant, je le ressentais et on m'en parlait. Et que l'Esprit de Dieu est peut-être en train, et certainement même en train, de préparer son Église à quelque chose d'exceptionnel que nous attendons. Et Jésus l'a dit aussi de cette manière-là, quand vous verrez toutes ces choses arriver, c'est-à-dire ces signes, parce que vous allez les voir, pas forcément tout comprendre, mais les voir, sachez que votre délivrance approche. On ressent autour de nous, bien évidemment, cette peur, cette crainte de nos contemporains. La mort rôde, la mort est là, elle frappe même. Mais l'enfant de Dieu que je suis a cette espérance que quand ces choses arrivent, et peut-être que ce que nous vivons est le début, est certainement le début de quelque chose de plus fort, de plus violent peut-être même, mais sachez que votre délivrance approche. Voilà sur quoi nous devons nous accrocher et nous rappeler sans cesse. Mais la question que j'aimerais nous poser est la suivante. Quelle est donc notre acuité visuelle, spirituelle, qui est forcément liée à la connaissance de l'Écriture et à la nourriture qu'elle me procure? Je crois que certaines églises ou chrétiens sont peut-être devenus presbytes, c'est-à-dire ils n'aperçoivent nettement que ce qui est éloigné. Alors ils attendent bien le retour du Seigneur, ils se préparent à la gloire future, mais ils négligent les impératifs de la vie chrétienne au quotidien. Ils ont quelque part déjà la tête au ciel. Une église, un chrétien désincarné, qui ne se soucie plus de ceux qui se trouvent autour de lui, parce qu'il y a il a ses yeux qu'au ciel, est un état un peu égoïste. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas un équilibre, la presbytie. Mais à l'inverse, certaines églises, ou peut-être chrétiens, seraient peut-être aussi devenus myopes. Ils ne voient que ce qui les touche dans l'immédiat. Et ils minimisent ainsi l'espérance de ce qui vient de l'enlèvement et du retour de Jésus. Ils n'en parlent jamais ou rarement, et pour éviter de le faire, ils s'activent comme si leur avenir était uniquement sur cette terre. Et pourtant, l'apôtre Pierre est clair lorsqu'il écrit aux chrétiens qu'ils sont, je le cite, « des résidents temporaires et étrangers sur la terre ». La myopie. Regardez uniquement le bout de son nez et oubliez quelque part les promesses qui viennent. Ce n'est pas non plus être dans un équilibre. Mais il y a certaines églises ou chrétiens qui sont peut-être aussi devenus astigmates, c'est-à-dire qu'ils ont une intensité de vision irrégulière, ce qui leur donne une connaissance floue et déformée des réalités spirituelles, parce que justement, un manque de connaissance et de cette bonne nourriture. Ainsi, ils engendrent des enfants spirituels qui peuvent être plutôt faibles, emportés à tout vent de doctrine, qui vont jusqu'à appeler le bien mal et le mal bien, parce qu'ayant justement des difficultés à discerner le vrai du faux. Souvenons-nous, ces aiguilleurs du ciel qui sont là aussi, la parole de Dieu pour le faire. Et enfin, certaines églises ou chrétiens seraient-ils aujourd'hui atteints de strabisme? Ce défaut est beaucoup plus perceptible puisqu'il se voit. Hein, c'est le fait de loucher un œil par à droite, un œil par à gauche. On veut être dirigé, regardé vers le chef de l'Église, Jésus-Christ, et en même temps, nous sommes tentés de loucher ou de regarder ou fascinés par le monde et ce qu'il offre. Là aussi, il faut y faire attention. Ce n'est pas un bon équilibre. À chacun donc de réaliser peut-être s'il n'a pas, au fond, spirituellement parlant, quelque part, une ou l'autre de ces maladies de l'œil qui pourraient, spirituellement parlant, l'empêcher d'être cette sentinelle telle que Dieu veut qu'il soit. Et puis, une troisième et dernière action concernant le prophète qui j'appellerais celle de l'endurcissement. Après avoir vu la gloire et la sainteté de Dieu, puis nourri ses entrailles de la parole de Dieu, il est dit « Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. » Il y a là, et je l'ai dit au début, par rapport au terme de sentinelle, plus particulièrement dans ces versets que nous venons de lire, cette notion de combat, de lutte, de choc. Et cette fois, nous remarquons que Dieu agit lui-même sur le prophète, parce qu'Ézéchiel ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut pas s'endurcir lui-même, même si peut-être intellectuellement parlant, cela est possible. Mais là, c'est Dieu qui agit. Il dit « J'endurcis moi-même ton front. Je te prépare ainsi pour que tu puisses être préparé face à ce peuple. » Et c'est terrible d'ailleurs de penser que Dieu dit de son peuple qu'il est si dur, que même le prophète doit être, doit avoir ce diamant sur le front pour y pénétrer, pour que la parole y pénètre. Un peuple devenu dur d'oreille, dur de cœur, insensible à son Dieu. Et il va y avoir de la bagarre quelque part, parce que le message du prophète qu'il a à délivrer va déranger les consciences, va gêner les habitudes et amener le peuple à faire des choix. Et la parole de Dieu a cette faculté, et c'est le propre de cette parole, c'est qu'elle nous amène aussi à déranger notre conscience, à gêner nos habitudes, mais pour nous amener encore plus proche de Dieu, pour nous amener à être plus préparés encore à sa venue. Dieu dit de son peuple qu'il est rebelle. Cela signifie qu'il ne sait pas, n'entend pas, n'obéit pas. Cette action de Dieu sur Ézéchiel a pour but, d'une part, de faire passer le message coûte que coûte par cet endurcissement, afin de susciter des réactions. Et d'autre part, cet endurcissement a pour but de permettre au prophète lui-même de rester ferme et de résister aux attaques auxquelles il pourra être confronté. Si Ézéchiel a spirituellement été endurci afin d'avertir son peuple, il me semble que le Seigneur veut aussi nous montrer, toute proportion gardée, que l'enfant de Dieu doit aussi se laisser endurcir, parce que le combat sera de plus en plus fort, que les temps de la fin s'avanceront. Mais en quoi consiste cet endurcissement de l'enfant de Dieu aujourd'hui? Je crois qu'il consiste à beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est ce que Paul dira à Timothée, « Garde le bon dépôt ». c'est-à-dire stabilise les fondations sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ seulement. Vis et dis ce que sa parole te montre. Évite toute compromission dans un but de satisfaire tes ambitions, te faire plaisir ou éviter peut-être les combats. Cet endurcissement sera visible à travers l'ordre d'ailleurs que Jésus a donné lorsqu'il dit « veillez et priez ». Pour moi, c'est une manière de nous endurcir parce que nous restons en communion avec Dieu. À la fois, j'agis quand je veille et je prie, mais en même temps, Dieu agit aussi et m'endurcit du bon endurcissement. Bien sûr, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de devenir méchant, haineux par rapport à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Bien au contraire, nous les aimons et parce que Christ les aime. Nous allons vers eux. Mais l'endurcissement fait que nous devons permettre aux paroles que nous allons prononcer, aux attitudes que nous allons avoir, de pouvoir pénétrer tel un diamant va pénétrer dans les cœurs. Puisse-t-il dire de nous, quand il nous voit ou nous entend, « Mais je veux l'espérance qui est la tienne ». Voilà le but aussi de l'endurcissement, à mon sens. Mais aussi en prenant conscience de la réalité de ce combat spirituel, et en particulier parce que Paul écrit aux Éphésiens, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce qui sous-entend, et nous le comprenons, si nous devons tenir ferme, c'est que nous aurons des possibilités ou en tout cas des occasions de chuter, de tomber. Et c'est ainsi, c'est un combat. Mais Dieu nous demande de prendre ses armes. Et relisez pendant les jours qui viendront ce texte d'Éphésiens 6 où nous rappelons, Paul rappelle ses armes qui sont à notre disposition. Face à l'ennemi auquel nous sommes confrontés, deux pièges sont à éviter. Le premier, c'est de le sous-estimer, car ce serait l'oublier et se faire surprendre. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, dira l'Écriture. Et deuxièmement, attention de ne pas le surestimer. Ce serait en avoir peur et rester comme paralysé devant lui. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ, et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Si nous acceptons de nous laisser endurcir par le Seigneur, alors le message de l'Évangile, oui, sera proclamé, sera montré dans sa pureté, dans sa simplicité, quand bien même il n'est plus à la mode aujourd'hui pour la majeure partie de nos contemporains. Et c'est ce que dit Dieu au prophète Ézéchiel. « Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Déjà, l'apôtre Paul écrivait à son compagnon Timothée « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprends, encourage, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout. » Et là, on ressent cet endurcissement qui est demandé quelque part à l'apôtre, à Timothée. Hein. « Sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Alors, lorsqu'on regarde aujourd'hui notre société, nul n'a besoin d'être un grand prophète pour dire que les cœurs sont durs. Le message de la Bible dérange, et il dérange de plus en plus, signe que l'ennemi va se ruer, continue de se ruer contre le Seigneur lui-même et ses enfants. Il dérange certes les incrédules, et c'est, dirons-nous, normal, mais il peut déranger aussi ceux qui prennent l'Évangile seulement pour rassurer leur âme, sans pour autant être passés par la case conversion, repentance, qui induit automatiquement l'obéissance envers celui dont ils disent se réclamer. L'apôtre parlera de cette catégorie de personnes, et c'est pour cela que j'en parle, dans sa description des signes des temps, en 2 Timothée 3, en disant qu'ils ont, je cite, l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Et c'est terrible cela, de penser quelque part avoir quelque chose, avoir reçu quelque chose, mais de ne pas avoir cette force. La force de la piété, c'est l'amour de la vérité, c'est l'amour pour le Seigneur Jésus, c'est le don de sa vie à Jésus, comme lui nous a donné la sienne. Et c'est cet amour qui fait que l'Évangile bouleverse la vie et pousse chaque enfant de Dieu à partager cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour ceux qui se laisseront toucher par Dieu lui-même, mais une mauvaise nouvelle pour ceux qui consciemment le rejetteront. Je pense à ce texte encore de l'apôtre Paul qui nous dit en 2 Corinthiens 2, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Voilà ce que Paul écrivait à cette église de Corinthe. Alors, nous comprenons que nous aurions encore beaucoup de choses à partager sur ces points, mais j'aimerais donner encore un mot de conclusion. Si nous sommes invités et exhortés à cultiver notre communion avec Dieu, lequel nous a ouvert sa porte à nous nourrir de sa parole et nous laisser endurcir pour être ses lumières dans ce monde de ténèbres et tenir ferme après avoir tout surmonté, n'oublions pas que nous aurons à rendre compte, d'après cette parole de Jésus, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Que le Seigneur nous révèle ce qu'il nous a confié à chacun d'entre nous, qui que nous soyons, afin d'être et de rester une sentinelle fidèle et surtout vigilante. Et je pense à ce texte du prophète Ésaïe au chapitre 21 qui nous dit ceci et qui nous interpelle. « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et c'est une question que le Seigneur nous pose encore aujourd'hui, à chacun d'entre nous. Est-ce que, comme nous l'avons lu dans le texte de Paul tout à l'heure, tu sais en quel temps nous sommes ? Que dis-tu de la nuit ? Car nous sommes dans la nuit. La sentinelle répond « Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, mais convertissez-vous et revenez. » Voilà ce que écrit le prophète Ésaïe de la part de Dieu aussi à son peuple. Alors, j'avais simplement envie pour terminer de lire avec vous, et vous allez l'avoir en projection, en vidéo, les paroles d'un chant que j'aime énormément, qui se trouve sur les recueils Aile de la foi, mais peut-être aussi sur Reflet, je ne sais, qui est ce chant qui parle de la sentinelle. Voici ce qu'il est écrit, voici ce que dit ce chant. « Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit ? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin lui. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous ? Au loin, gronde la bataille. Tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel, travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. Oui, la nuit passe. Le matin du grand jour, lui, sentinelle, sois au poste, jour et nuit. Sentinelle, sois